CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous dans ce MAG où on vous parlera des tapisseries de Montpeuzat. C'est un ensemble exceptionnel de 5 tapisseries flamandes de la Renaissance du XVIe siècle conservées dans la collégiale Saint-Martin de Montpeuzat-Quercy. Elles illustrent la vie de Saint-Martin et possèdent la particularité rare d'être restées dans leur édifice. Elles sont classées monuments historiques et c'est le conservateur des antiquités objets d'art de Tarn-et-Garonne qui nous fera une visite auditive de ces tapisseries de Montpeuzat-Quercy. Mais avant ça, rendez-vous ce soir pour la première d'Orphée aux Enfers proposée dans le cadre du 30e anniversaire du festival de Bruniquel. C'est la compagnie La Tour Bruno qui organise tout ça, des pièces de Jacques Offenbach dans le cadre magnifique que sont les châteaux de Bruniquel, et c'est Franck Thézan qui va tout nous dire. Bonjour Franck.
Bonjour.
Vous êtes le chef d'orchestre de tout ça.
Oui, si on peut dire, disons que je suis surtout à la mise en scène sur cette production, parce que bien sûr, il y a un orchestre et aussi un chef d'orchestre. Je ne dirige pas l'orchestre, mais c'est vrai que depuis 30 ans, je suis le fer de lance du festival.
Dans le cadre donc naturel des châteaux, en plein air, avec de très nombreux bénévoles qui viennent vous épauler, puis une troupe professionnelle là qui s'attale à nous proposer donc cette année Orphée aux Enfers. Alors en quelques mots, qu'est-ce que ça raconte Orphée aux Enfers ?
Alors Orphée aux Enfers, c'est une satire de la légende antique en fait. Donc c'est l'histoire d'Orphée qui perd sa femme, qui perd sa femme aux enfers et qui, par amour pour elle, est obligé d'aller la chercher et de la ramener sur terre. Et en fait, Offenbach et les librettistes Meyac et Halévy en ont fait une satire où, bien sûr, la situation est tout autre, est presque à l'opposé. Et c'est ce qui rend un peu le thème drôle, comique.
Ça, c'est pour le fond. Pour la forme, vous êtes combien cette année ?
Alors, combien sommes-nous sur scène ? On est au moins une cinquantaine, puisqu'il y a des artistes professionnels à peu près une douzaine. Il y a 12 musiciens, un chef d'orchestre. Et on a ensuite une trentaine de figurants qui ne sont pas professionnels, mais qui travaillent avec nous déjà depuis un mois. Donc ils sont bien calés, ils s'insèrent très bien dans le spectacle.
Vous allez proposer là 1, 2, 3, 4, 5, il y a une dizaine de représentations à partir donc de ce soir jusqu'au 9 août. Ça se passe à la tombée de la nuit, de manière à pouvoir savourer le spectacle. On a parlé des professionnels chanteurs, musiciens qui seront là sur place. Il y a aussi tout un travail en termes de décor, de mise en scène. Donc là, avec vous, on est dans un théâtre en mieux en fait.
Oui. Alors toute la difficulté à Bruniquel, bien sûr, c'est que justement on n'est pas dans un théâtre, on est dans un lieu qui n'est pas conçu pour faire du théâtre. Donc en fait c'est là toute la difficulté, c'est-à-dire qu'il faut avoir des structures très particulières que l'on installe spécifiquement pour ce moment. Et tout est un peu compliqué, bien sûr, parce que dans un théâtre, tout est équipé, il y a des loges, il y a des cintres sur scène, il y a des rideaux. Tout cela, on ne l'a pas à Bruniquel, donc ça ajoute bien sûr de la difficulté pendant la préparation. Et pendant le spectacle aussi, le public peut voir effectivement les changements de décor à vue. Alors pour ça, on a adapté la mise en scène de façon à ce que ce changement de décor soit fait dans une théâtralité permanente.
Il me semble que l'an dernier, ou il y a 2 ans, il y avait des décors de château en carton qu'on retournait tout simplement comme des blocs.
Oui, on utilise souvent cette méthode, puisqu'en fait, ça permet en fait de changer les décors beaucoup plus vite. On construit un décor qui peut être retourné, changé, relevé, et qui, pour chaque acte, donne l'esprit du moment.
Et puisqu'on parle mise en scène et que c'est vous le metteur en scène donc de cette pièce Orphée aux Enfers, donné à voir dans le cadre de ce festival des châteaux de Bruniquel, est-ce que vous pouvez nous parler des éléments de lumière ou de décor là en particulier, comme ça, comment vous arrivez à faire fonctionner tout ça dans le cadre des châteaux qui sont juste derrière vous, les châteaux de Bruniquel?
Oui, alors évidemment le décor naturel prend toute la place évidemment, puisque tout l'avantage effectivement c'est de monter des pièces dans un décor décor naturel. On a déjà un décor exceptionnellement beau, que sont la barbacane et les murs du château. Et en fait, les décors que nous construisons et que nous installons au centre de cette pièce, ce sont toujours des décors qui sont un peu accessoires. Alors ça peut être des décors qui font quand même 3 mètres sur 2, mais ce n'est pas des immenses décors. Le décor en lui-même suffit. Et effectivement, nous avons Richard Ascargorta qui s'occupe aussi des éclairages et qui illumine tout ça, et ce qui fait que en fait on n'a pas besoin de rajouter des décors au décor, puisque le décor est par lui-même superbe, et il suffit d'ajouter des éléments décors accessoires qui vont donner un sens à l'histoire que l'on raconte.
Vous nous parlez d'Offenbach. Pourquoi cette admiration? Pourquoi systématiquement du Offenbach depuis 30 ans?
Eh bien, en fait, ça c'est un peu de mon fait, puisque c'est un compositeur que j'apprécie tout particulièrement. D'abord pour sa musique, mais aussi parce que on peut faire du théâtre et de la musique et du chant chez Offenbach. Et puis surtout, je trouve que ses livrets et ses librettistes traitent les sujets de manière incroyablement universelle. C'est-à-dire que tous les thèmes que l'on peut trouver chez Offenbach sont toujours d'actualité. Il n'y a rien qui est vieillot. On ne peut pas dire que ce qu'on dit parfois sur certaines opérettes, oh, c'est vieillot, ça a vieilli. Ce n'est pas le cas chez Offenbach, puisque chaque fois on traite essentiellement de la nature humaine. Et la nature humaine, elle ne vieillit pas.
Et ça fait 30 ans que la compagnie à la Tour Bruno fait rayonner ses pièces d'Offenbach, notamment grâce donc à de très nombreux bénévoles qui vous suivent. Habitants de Bruniquel, vous avez vu les grands-parents, les parents, les enfants qui défilent.
Oui, c'est ça. Ouais. On a plusieurs générations. On a des enfants qui étaient dans la poussette il y a 30 ans et qui aujourd'hui, notamment Arthur Sagne par exemple, qui s'occupe du son, qui a fait ses écoles d'ingénieur du son et qui aujourd'hui... est en charge de cela. Et effectivement, quand il était tout petit, sa maman était à la couture et elle l'a mené dans la poussette. Donc vous voyez, effectivement, en 30 ans, on a des enfants qui aujourd'hui sont encore là.
Et ça développe des vraies passions pour le spectacle vivant de manière générale, puisque tous les corps de métier sont là représentés pour les festivals.
C'est surtout le propre au genre que l'on fait, c'est-à-dire c'est l'opérette. L'opérette, vous avez tous les styles. Vous avez le chant, vous avez la musique, le stylisme avec les costumes, le maquillage, les décors. On a aussi la danse, on a la comédie. Donc c'est un...
La mise en scène.
La mise en scène, bien sûr, l'éclairage. Et en fait, c'est un art qui, au bout du compte, coûte assez cher, puisqu'il y a tous ces éléments réunis. Tous les aimants artistiques sont réunis dans le genre opérette, opérette plus encore qu'opéra, puisque dans l'opérette, on a en plus la danse, le théâtre, la comédie, et puis, comme je le disais à l'instant, tout le reste, c'est-à-dire les costumes, l'éclairage. À Bruniquel, en plus, on a aussi le son, puisque c'est sonorisé, puisqu'on est en extérieur.
Alors c'est assez facile de convaincre les bénévoles de venir vous rejoindre, parce que pour suivre une aventure telle que ça, c'est hyper chaleureux. Il y a d'ailleurs les fameuses tables d'hôtes à l'issue de chacune des représentations où vous conviez le public à partager la table des artistes et de très nombreux bénévoles donc, qui participent à ce festival des châteaux de Bruniquel. Donc des bénévoles, je dis facile à convaincre, en même temps j'y suis pas. Mais quant aux professionnels, parce que ce sont des véritables professionnels là, que vous coachez là, pendant deux mois je pense avant la première représentation.
Oui. En ce qui concerne les professionnels, c'est vrai qu'on a une équipe qui est renouvelée tous les ans. Bon, des fois, il y a des nouveaux qui viennent, et puis des anciens qui reviennent. Mais on a quand même un noyau dur d'artistes, ce qui permet, si vous voulez, d'avoir une véritable amitié qui s'est créée au fil des années. Et c'est ce qui fait le plus sur un spectacle, c'est que même si la mise en scène plaît, si les décors, les costumes, tout est bien, mais le plus, c'est ce que ressent le public, c'est quelque chose d'un peu ineffable, mais qui est ressenti par le public quand une ambiance est excellente entre les protagonistes sur scène. Et ça, c'est notre plus, c'est pour ça qu'on est très attaché à garder la cohésion entre entre les artistes, mais aussi les bénévoles, puisque au fil des ans, des amitiés se sont créées. Il y a plus d'artistes, plus de bénévoles, on est tous ensemble, quoi. C'est une famille.
Et qu'est-ce qu'ils pensent, vos artistes, de cette mise en scène en plein air? Est-ce que c'est habituel, ça?
Oui, oui, quand même, oui, oui. Ça se fait un peu partout, oui. Les artistes que l'on a sont habitués à faire ce genre de choses, oui, oui. Non, là, ça n'a rien d'exceptionnel de faire un spectacle d'opérette en plein air.
Vous attendez chaque année entre 6 000 et 7 000 spectateurs pour. Donc, c'est plusieurs représentations mises en scène en plein air. Là, c'est Orphée aux Enfers, toujours au Funback, toujours Opéra Bouffe au menu, toujours la compagnie de la Tour Bruno. Alors, pour l'anecdote, c'est quoi la Tour Bruno?
Alors, la Tour Bruno, c'est le nom que l'on a donné à notre association quand on l'a créée pour faire ce festival. Et c'est le nom de la tour du château de Bruniquel, qui porte le nom de la reine Bruno, qui est dans la légende du château de Bruniquel. La reine Bruno qui était en guerre contre la reine Frédégonde au château de Penne. Et nous avons choisi de donner le nom du donjon, du château, à notre compagnie. Puisqu'en fait, quand on l'a créé, cette association, c'était exclusivement pour faire des choses au château.
Et vous y étiez, vous, déjà en 1996?
En 1996, j'y étais, puisque c'est moi qui l'ai créé, en fait, ce festival, avec Michel Montet, avec mon père Claude Tézan, et Michel Montet, qui était à l'époque maire de Bruniquel. Tous les trois, nous avons créé, en 1996, on a créé la compagnie pour pouvoir faire notre premier spectacle au château en 1997. Le premier spectacle était un Offenbach qui s'appelait Croque-Fer, une pièce en un acte qui se passe au Moyen-Âge dans un décor médiéval. C'est comme ça qu'on a commencé. En fait, au début, on n'avait pas pensé en fait faire un festival au départ. On voulait monter une pièce, peut-être l'année d'après, mais bon, on n'avait pas encore la vision d'un festival qui durerait 30 ans. Et en fait, on a fait un premier spectacle avec Michel Montet, le maire de Bruniquel. On s'est mis d'accord pour le refaire l'année d'après. Et puis petit à petit, voilà, des liens très forts se sont tissés entre nous. Et voilà, et c'est devenu ce que c'est aujourd'hui.
Attention, ils sont victimes de leur succès. Il faut réserver en faisant le détour par brunikelhof.com pour réserver un petit peu ses places. Ça va, il en reste. Vous êtes prêts? La première, c'est ce soir, là, vous en êtes où?
Oui, là, il y reste des places. Ça marche bien. Pour mercredi, parce que mercredi, on a notre fameux feu d'artifice qui suivra le spectacle. Mercredi, on est complet, déjà. Et les autres jours, il reste des places encore, mais ça se remplit très, très bien. Ça marche très bien.
Ce soir, puis demain, puis le 1er, 2, 5, 6, 7, 8, 9 août à 21h30. Venez voir Orphée aux Enfers, proposé par la compagnie La Tour de Bruno dans le cadre de ce festival des châteaux de Bruniquel, 30e édition, 30 ans que vous êtes aux manettes et à la mise en scène. Franck Tézan, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et à ce soir.
À ce soir.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack.
Allez, deuxième partie de ce MAC, direction Montpezat-Quercy, à propos des tapisseries de la collégiale Saint-Martin. C'est le conservateur des antiquités et objets d'art de Tarn-et-Garonne qui va nous faire une visite auditive. Emmanuel Bourreau, bonjour.
Bonjour Lisa.
Cette tapisserie, elle date du 16e. Qu'est-ce qu'elles font là?
Alors cette tapisserie, elle date effectivement du tout début du 16e siècle, certainement du premier tiers, dans les années 1520-1530 à peu près. Et elles sont là parce que, un des fils du seigneur de Montpezat, qui s'appelait Jean Després, est devenu évêque de Montauban, justement, dans ces années 1519 et il est mort en 1539. Et donc il a offert cette tapisserie à l'église dans laquelle il avait été baptisé et puis qui était l'église aussi de son village. Voilà.
Oui, c'est un village, quoi, Montpezat-Quercy, pour des tapisseries qui sont classées monument national, je crois.
Oui, elles sont classées monuments historiques depuis 1898. Donc, elles font partie des tout premiers objets mobiliers qui ont été classés monuments historiques, et justement à cause de leur importance et de leur rareté aussi.
Elles font 23 mètres de long. Elles sont justement récemment restaurées. Vous pouvez nous les décrire ?
Oui, alors cette tapisserie, alors c'est ce qu'on appelle en fait des tentures de cœur. C'est un objet un petit peu spécifique dans l'art de la tapisserie, puisque ce sont des tapisseries qui ont été tissées spécialement pour une église, d'où le titre de tenture de cœur, et elle prenait place, cette tapisserie, dans le cœur de l'église, c'est-à-dire au-dessus des stalles, donc ces sièges amovibles dans lesquels s'asseyaient les religieux qui s'occupaient de la collégiale de Montpezat, donc les chanoines. Alors on a cinq panneaux qui racontent la vie de Saint-Martin de Tours, donc c'est cinq grands panneaux, comme tu le disais sur la dimension de ces panneaux, hein. Donc cinq grands panneaux qui sont des tapisseries, donc ce qu'on appelle de haute lisse, donc qui sont tissés au métier et qui sont réalisés en fil de laine et également en fil de soie pour tout ce qui est fil doré. Donc ces cinq panneaux racontent chacun donc un ou plusieurs épisodes de la vie de Saint-Martin de Tours, qui est le saint patron de la collégiale de Montpezat. C'est une sorte de bande dessinée, au final. Au travers de l'image, on va raconter un épisode de la vie de Saint-Martin, depuis le premier épisode connu, qui est le partage du manteau. C'est peut-être une image que l'on connaît le mieux de la vie de Saint-Martin, hein. Martin, soldat romain, qui donne la moitié de son manteau à un pauvre. Alors pourquoi la moitié? Pas parce qu'il était radin, mais parce qu'en fait, les soldats romains ne possédaient que la moitié de leur équipement, l'autre moitié appartenait donc à l'Empire. Donc il a donné sa part à lui. Et puis donc on suit comme ça toute la vie de Saint-Martin, quasiment jusqu'à la fin. Donc des tapisseries très colorées. Les couleurs sont encore très très bien conservées, avec donc ces épisodes très vivants, et puis des fonds qui sont garnis de villes, de personnages, de fleurs aussi, qui sont des caractéristiques de cette tapisserie des Flandres.
Oui, elles sont flamandes. Alors, les couleurs sont encore chatoyantes, parce que ces tapisseries, elles sont conservées sous un épais rideau qui les protège un petit peu de la lumière. C'est pour ça que je crois qu'elles ont dû être restaurées. Elles ont plus de 400 ans. On dirait que comment ça se conserve, des tapisseries comme ça?
Alors, la chance qu'on a eue pour cette tapisserie de Montpezat, c'est qu'en fait, comme d'ailleurs bon nombre de tapisseries d'église, elles n'étaient pas exposées en permanence. C'est-à-dire qu'à partir de leur arrivée à Montpezat, donc dans ces années 1530, jusqu'au tout début du 19e siècle, ces tapisseries, elles étaient exposées dans le chœur que une ou deux fois par an pour les fêtes, quelques jours seulement. Donc ce qui explique leur bonne conservation par rapport aux couleurs. À partir du début du 19e siècle, elles vont être exposées en permanence pour faire joli. Et puis de toute façon, il n'y a plus de chanoines. La Révolution a mis fin au chapitre de chanoines. Donc le curé de l'époque a décidé de les mettre au-dessus des stalles pour faire joli. Donc c'est à ce moment-là qu'elles vont se dégrader un petit peu plus. La tapisserie, en général, souffre beaucoup des rayons du soleil et qui fanent les couleurs. Et donc ces tapisseries, elles vont être restaurées une première fois dans les années 1920 par les Gobelins à Paris. Et puis un siècle après, ou quasiment un siècle après, on s'est rendu compte qu'il fallait justement les restaurer à nouveau. Elles s'étaient beaucoup encrassées. Et puis on avait un gros souci qui était que leur disposition sur les murs de la collégiale entraînait des déformations importantes. Il fallait donc essayer de trouver une solution justement pour pallier à la fois la lumière et puis les déformations. Donc ça a été un gros chantier qui a été mené entre 2015 et 2017 par la commune de Montpezat de Quercy, sous le contrôle scientifique et technique de la conservation des monuments historiques, hein, donc du ministère de la Culture. Et la solution adoptée a été justement d'avancer les stalles, de pouvoir donc avoir des plans, des boiseries qui n'aient plus de déformation, sur lesquelles on a tendu les tapisseries avec des velcros. Et puis ces tapisseries, elles sont parties en restauration pendant plusieurs mois à la manufacture De Witt, donc à Malines, en Belgique, donc qui est une manufacture de restauration parmi les plus célèbres au monde. Et donc elles ont été nettoyées, ces tapisseries, elles ont été. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'elles étaient très sales. Donc elles ont été nettoyées et puis elles ont été doublées. Le revers a été doublé avec une toile de lin et on a pu donc les remettre telles qu'elles étaient. Et effectivement, donc ça c'était pour la déformation. Et pour la lumière, le choix a été fait de ce rideau donc avec un tissu assez lourd et qui surtout donc permet de ne plus avoir de risque avec la lumière, avec les UV sur les tapisseries.
Et aujourd'hui, on peut les voir. Forcément, c'est pas ouvert tout le temps. Tapisseries et tableaux de la collégiale. Alors, on va parler des tableaux. Juste avant ça, vous avez précisé qu'elles avaient été restaurées en Belgique. Ce sont des tapisseries flamandes. C'est une spécialité nationale.
Ah oui, les Flandres, à partir de l'époque médiévale, se sont un petit peu spécialisés dans la production, effectivement, de tapisseries, même si Paris est aussi une des capitales de la tapisserie à cette époque-là. Donc, en fait, Paris et les Flandres vont rivaliser jusqu'au début du XVIIe siècle dans la production de tapisseries. Ces tapisseries de Montpezat, on pense qu'elles sont flamandes. En tout cas, le peintre qui a réalisé ce qu'on appelle les cartons, c'est-à-dire qui a dessiné les tapisseries, est flamand. Ça c'est certain. Après la réalisation, c'est-à-dire le tissage, est peut-être dû à des ateliers des Flandres, tournés potentiellement, mais ça pourrait être aussi Paris. Oui. Ces tapisseries ont fait l'objet d'une étude assez poussée il y a maintenant 3-4 ans pour un colloque international sur la tapisserie autour justement de ces motifs, de l'identité potentielle du peintre qui est certainement flamand. Et il se trouve qu'en même temps, j'avais pu travailler sur des tableaux qui sont dans la collégiale, qui sont un petit peu plus tardifs, qui sont 17e siècle essentiellement, ou 18e. Et certains ont été réalisés aussi par des peintres flamands qui sont venus en ce début du 17e siècle jusqu'en Quercy pour peindre, pour réaliser des tableaux. Voilà, donc c'était intéressant de faire ce parallèle entre ces tapisseries flamandes et puis nos peintres flamands qui sont venus un siècle après en Quercy. Alors, comment on le sait par rapport aux peintres, on a eu la chance, on a une série de tableaux qui est signée. On a le nom du peintre le nom du peintre permet de dire qu'il est flamand. Et puis il y a des découvertes d'archives aussi qui permettent de donner des noms et de préciser que ces peintres-là venaient des Flandres.
En quoi elles sont exceptionnelles, en vrai, ces tapisseries, mis à part qu'elles sont vieilles?
Alors elles sont exceptionnelles de par leur qualité déjà. C'est quand même des tapisseries au niveau du dessin et de l'exécution. C'est vraiment du très très beau travail. Et d'autre part, elles sont uniques au monde. C'est-à-dire qu'il faut savoir quand même que dans ces ateliers de tapisserie, on utilisait comme je l'ai dit tout à l'heure, des cartons, c'est-à-dire des dessins. Et puis ces dessins étaient reproduits en tapisserie. Et souvent, les ateliers pouvaient faire plusieurs exemplaires d'une même série. Donc il vendait plusieurs fois la même série de tapisseries. Là, celles de Montpezat, elles sont uniques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne connaît qu'un seul exemplaire. Donc c'est une commande a priori spécifique, spéciale, pour la collégiale de Montpezat. Et donc c'est en cela qu'elles sont vraiment, vraiment exceptionnelles. C'est qu'elles sont uniques et d'une très grande qualité.
Emmanuel Moureau, dans ses tapisseries et les tableaux de la collégiale, là, j'ai dit église, c'est une collégiale. Juste en deux, trois mots, donc vous êtes pour le conservatoire des antiquités et objets d'art de Tarn-et-Garonne, c'est quoi votre travail?
Moi, je suis chargé de veiller sur les objets mobiliers, donc tout ce qui se déplace. Alors, en théorie, ça va de la petite cuillère jusqu'à la locomotive, même s'il n'y a pas de locomotive protégée en Tarn-et-Garonne. Donc, veiller sur les objets mobiliers qui sont protégés au titre des monuments historiques, donc inscrits ou classés, qu'ils soient propriété privée ou propriété publique, et puis aussi de trouver d'autres objets qui pourraient mériter cette protection au titre des monuments historiques, donc à la fois des objets médiévaux ou du 17e et 18e siècle, mais aussi du 19e ou du 20e siècle, sur du patrimoine par exemple industriel, scientifique ou technique, hein, je pense à des machines agricoles par exemple, ou d'autres objets auxquels on ne penserait pas. C'est un petit peu ça mon métier, c'est à la fois de veiller sur l'existant et puis de découvrir d'autres types d'objets.
Ouais, y a de quoi faire.
Y a de quoi s'occuper, oui, en effet.
Emmanuel Moureux pour le Conservatoire des Antiquités et Objets d'Armes de Tarn-et-Garonne, merci beaucoup.
Merci.
Et merci à vous, à tous, à chacun de nous avoir suivis tout au long d'un mag qui sera rediffusé à 18h et à 21h et à réécouter à loisir sans modération et en podcast sur notre site internet cfmradio.fr. La suite du mag depuis CFM Montauban, ce sera avec Rémi et ce sera juste après les infos pour maintenant. If there really was a God.